critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, Avis Critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux ouvrages qui nous emmèneront de la ville à la campagne. Dans Bâtir et habiter, publié par Albin Michel, le sociologue américain Richard Sennett propose d'élaborer ce que pourrait être une éthique de la ville, de réconcilier le vécu et le construit, les citadins et les urbanistes. De la cité antique aux métropoles ultra-modernes, Sennett mobilise l'histoire, la sociologie, la philosophie et même la littérature au service d'un plaidoyer pour des villes ouvertes pleines de citadins compétents. Cap ensuite vers la campagne, ou plutôt les espaces périurbains. Le sociologue Benoît Coquart propose dans « Ceux qui restent » aux éditions La Découverte le fruit de plusieurs années d'enquête dans la région du Grand Est. Il y décortique les raisons, choix ou contraintes qui poussent certains à continuer à vivre dans des campagnes en déclin et à reconstruire de nouvelles consciences collectives qui se sont matérialisées au moment des Gilets jaunes. Et en studio pour débattre, deux invités, deux critiques, Joseph Confavre de Mediapart, bonsoir Joseph.
Bonsoir Raphaël.
Et Thibaut Sardier de Libération, bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Richard Sennett, Bâtir et habiter, sous-titré Pour une éthique de la ville, dernier essai d'une trilogie consacrée par le grand sociologue américain au rôle social d'Homo Faber. Alors l'ancien élève d'Anna Arendt reprend là une distinction établie par la philosophe allemande entre Homo Faber et Hannibal Laborans. L'individu au travail qui ne fait que produire, complètement absorbé par sa tâche et de ce fait amoral, les créateurs de la bombe atomique seraient les plus tristes représentants de cet animal laborance. Celui ou celle qui fait de ses mains est au contraire capable de juger de façon éthique son travail. C'est ce que Sennett développait en 2010 dans « Ce que c'est la main » et qu'il approfondissait en 2014 dans « Ensemble », un essai sur l'éthique de la coopération, l'empathie et la capacité d'engagement. Le travail et ses évolutions sont donc au cœur des réflexions du professeur à la London School of Economics, mais il fallait compléter la démonstration en consacrant ce dernier volet de la trilogie à l'autre grand objet de ses recherches, la ville. De l'antique cité d'Athènes aux villes ultramodernes du XXIe siècle, comme New York et Shanghai, Sennett cherche les liens qui unissent la façon de construire les villes et la façon de les habiter. Pour, au final, sans doute le volet le plus politique de son travail, puisqu'il s'agit de réconcilier la ville et la cité, on reviendra évidemment sur cette distinction. Au cœur de sa réflexion, les notions de liberté, d'ouverture, de citoyen compétent, de modestie, et une question fondamentale, une éthique peut-elle façonner les plans d'une ville? Joseph Confavreux, il y a là un travail historique sur le rôle des urbanistes dans l'évolution des grandes villes, dans leur conception d'hier aujourd'hui, j'ai envie de dire, une réflexion philosophique sur la portée de ces choix de construction, une analyse sociologique des pratiques de ce que c'est qu'habiter une ville, et enfin une proposition politique, c'est la ville ouverte.
C'est tout à fait un livre en cela à la Sennett, hein, qui brasse les registres, qui passe par l'histoire, qui se déplace dans la géographie. Hein, on passe à la fois par les grandes villes emblématiques d'un certain urbanisme et par des endroits qu'on connaît moins, comme Medellín, des bibliothèques à Medellín, comme une ville intelligente. On va avoir l'occasion d'en reparler parce qu'il fait beaucoup de choses là-dessus qui sont vraiment intéressantes en Corée du Sud. C'est aussi des fois un peu, vous avez bien dit que Sennett, il faut le resituer, hein, c'est une grande figure de la sociologie américaine, c'est aussi un philosophe pragmatiste, c'est un urbaniste, et là, il essaye de réconcilier toutes ses compétences, ce qui fait des vraies intuitions et des fois quelque chose un peu chaotique. En même temps, c'est ça qu'il voudrait comme ville. Donc en fait, il produit un livre à l'image de la ville qu'il voudrait, c'est-à-dire pas complètement avec un plan bien, c'est pas le plan voisin de Le Corbusier, c'est on passe d'un espace à l'autre, ça reste assez impressionniste par moments, mais ça vaut par le cumul d'expériences. Hein, on est chez un philosophe pragmatiste qui le met en lien pour effectivement proposer une lecture d'une ville qui soit ouverte. Alors, on va rediscuter de cette notion dont on sent que chez lui, elle est en partie fondée sur ce qu'on dit aujourd'hui des logiciels, c'est-à-dire le logiciel libre, dont il faut prendre du temps pour s'approprier le code, pour pouvoir s'en libérer, versus la ville qui serait fermée toute faite. Alors évidemment, la gated communities, les gated communities à l'américaine, où là on est enfermé, mais même au fond, ce qu'on pense être une ville faite pour nous, très conviviale, dont il dit qu'au fond, c'est un nouvel esclavagisme. De même que, voilà, lui, il n'utilise pas Apple, il n'utilise pas des systèmes simples, il a Linux sur sa bécane.
Il achète un iPhone à New Delhi quand même à un moment. Mais bon.
Oui, mais bon, c'est un iPhone dont on ne sait pas exactement si il n'est pas sur Linux. Enfin, voilà. Alors voilà. Après, ce qui est assez sympathique, hein, il rencontre des gens. Vous parlez de Delhi où voilà, il rencontre un personnage sur un marché de Nehru Place. Ensuite, il parle avec une urbaniste qui a été importante dans la manière dont s'est construit Shanghai. Donc les rencontres sont sympathiques. Des fois, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a une veine un peu trop impressionniste et puis un petit côté nostalgique dont il faudra reparler. Il explique à quel point il est nostalgique du Media Lab dont il est issu, des pizzas à moitié froides.
Le Media Lab, faut rappeler ce que c'est. C'est un laboratoire au MIT, donc
où se trouvait Richard Sennett et dont il fait le contre-modèle du Googleplex, c'est-à-dire maintenant le lieu de Google. Alors lui, il examine celui de New York, pas celui en Californie. Dont il dit au fond, à l'époque, il y avait des mégots de cigarettes, des pizzas. C'était quand même beaucoup plus sympathique que le côté très transparent du Googleplex. On peut tout à fait suivre les limites de la transparence, de la pseudo-transparence en plus de Google. Mais voilà, ça oscille entre vraiment, à mon avis, des intuitions très fines à partir de son travail et plus un peu un regard des fois un peu nostalgique sur la ville telle qu'il l'a aimée.
Thibaut Sardier.
Oui, j'ai la même impression de lecture que Joseph. Après, ce qui est quand même intéressant dans sa façon d'affirmer ou de délivrer une vision un peu programmatique de ce que pourrait être la ville, c'est sa façon de revenir en plus à une définition assez classique de l'urbain, qui est ce mélange de diversité et de densité des éléments, des acteurs sociaux qui se trouvent concentrés dans un espace restreint. Et il dit plutôt que de vouloir aménager à toute force et ordonner les choses, bah, laissons aussi s'exprimer les frottements, la conflictualité, la résistance qu'il peut y avoir dans cet amas plutôt que de vouloir à toute force cadrer les choses, pacifier les choses et créer du coup des enclaves où, comme le Googleplex, on en parlait.
Il n'y a pas que Google justement sur cette critique portée par Richard Sennett. Il critique aussi beaucoup l'idée de Bill Gates justement de technologie sans frottement, puisque vous avez utilisé le terme. Et voilà, on sent bien que Richard Sennett, lui, il aime bien cette idée que la complexité, c'est aussi le frottement.
Absolument. Et alors, pour le coup, les pages qui concernent spécifiquement le numérique pourraient en fait être plus largement interprétées comme une vision de sa ville idéale, puisqu'il oppose la ville prescriptrice et la ville coordinatrice. La ville prescriptrice, c'est celle effectivement du logiciel d'Apple où tout est fait pour vous, tout coule, tout est très facile à utiliser, mais vous devez vous conformer à l'usage du système. Alors que la ville coordinatrice, ce sont des outils numériques qui permettent de partager la donnée, de la bidouiller, de la discuter. Et c'est exactement la même chose en matière d'urbanisme. Il s'oppose à une vision trop prescriptrice du type « il faut construire comme ça, il faut normer les choses comme ça ». Essayons de coordonner les efforts, de faire en sorte que ces différentes communautés, ces différents objets spatiaux qui s'inscrivent dans un temps long, on arrive à les faire évoluer progressivement et les faire cohabiter.
Tout ça part quand même d'un constat de Richard Sennett, celle de l'extrême complexité de la ville, qui est un espace qui se complexifie de plus en plus avec l'histoire, avec la, puisqu'elles s'étendent, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de diversité au sein des villes. L'étranger est une figure marquante sur laquelle il faudra peut-être revenir aussi, si vous voulez bien, Joseph Confavreux. Mais juste encore un mot de manière un peu générale sur l'ouvrage, c'est cette complexité finalement qui est au cœur de la réflexion de Richard Sennett. Il oppose la volonté de certains urbanistes d'ordonner cette complexité à son idée à lui, qui est de rester suffisamment ouvert pour laisser la complexité vivre et produire d'elle-même, voilà ce qu'elle doit produire.
Voilà, c'est exactement son point. Il sent bien aussi que la pure spontanéité ne suffit pas. Donc en gros, sa grande question...
Surtout, ça fait porter sur l'individu une responsabilité, une obligation d'intervenir, de s'approprier la ville, comme vous le disiez tout à l'heure, qui peut être très très angoissante.
Voilà, et donc il réfléchit à qu'est-ce que serait un urbanisme qui soit à la fois modeste, mais qui intervienne quand même sur la ville, qui ne dise pas simplement bah, on va laisser la complexité se créer. C'est là où moi, je trouve que la métaphore entre le numérique, l'ordinateur et la ville ne fonctionne pas tout à fait, parce qu'il dit lui-même parce que nous, Apple, au fond, quand on utilise notre Mac, eh ben, on suit ce que fait Apple. En ville, en fait, personne ne suit exactement ce que font les urbanistes. Il donne cet exemple, il remonte à l'histoire, et évidemment, il parle du baron Haussmann, dont il dit qu'au fond, ce qu'il a voulu faire n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'il voulait un urbanisme quand même assez militaire. Enfin, Haussmann était inspiré par vraiment le maintien de l'ordre avant tout, et il a créé à son corps défendant, d'une certaine manière, des espaces de sociabilité. C'est-à-dire que c'était dirigé vers l'hygiène, vers l'ordre, et en fait, ça a créé des cafés, café, ça a créé autre chose. C'est-à-dire que, en fait, les habitants n'utilisent jamais la ville telle que les urbanistes l'ont pensée. En cela, la métaphore me semble pas complètement fonctionner. Mais il se pose cette vraie question. Est-ce que l'urbanisme doit représenter la société telle qu'elle est, ou est-ce qu'elle doit tenter de contribuer à la changer? Sachant que, et là, son parcours historique est intéressant, quand l'urbanisme a essayé de changer la vie, ça a rarement été pour le mieux. Hein, on parle de Haussmann, il s'intéresse évidemment à Brasilia, à tout le mouvement moderniste autour du plan voisin, dont il dit bien qu'au fond, il y avait quand même une inventivité formelle, mais qui se payait d'une pauvreté sociale. C'est-à-dire que c'était pas aussi caricatural hein, qu'on le plan voisin, c'est ce fameux plan qui prévoit de remplacer tout Paris, enfin notamment le Marais, par des grandes tours fonctionnelles.
Autour des fonctions.
C'est là aussi où quand même si en fait les contre-exemples qu'il donne, enfin il donne plein d'exemples qui fait qu'on trouve des contre-exemples, c'est que des fois moi j'ai l'impression que Richard Sennett il s'en prend à un urbanisme des années 70. Parce que on est quand même revenu, pas partout, pas systématiquement, mais d'un urbanisme qui prétend justement assigner des fonctions à la ville et des places à ses habitants. Ça existe encore, mais on a une multitude d'exemples dont il donne lui-même quelques-uns, qui fait qu'on ne construit plus exactement les villes de la même façon, même si l'hypercapitalisme fait qu'elles finissent aussi par se ressembler.
Oui, il y a l'hypercapitalisme et aussi la croissance urbaine accélérée de certaines grandes villes, on va dire du sud pour faire simple, qui se traduisent par un urbanisme un peu standardisé, des formes types qui sont reproduites à l'infini. L'exemple des Shikumen de Shanghai, c'est-à-dire ces espèces de tours qui entourées d'un petit jardin muré, qui était une forme entre guillemets traditionnelle de la ville de Shanghai, qui là sont reproduites par dizaines ou par centaines dans la ville, font aussi que ce message aux urbanistes, il a quand même du sens, parce que certes, l'urbanisme a évolué, mais cette évolution des villes par l'étalement urbain et la reproduction des formes est quand même un élément fort de la croissance urbaine de ces dernières décennies et de ces dernières années. Et à ce titre, vous disiez tout à l'heure, Raphaël, que les villes se complexifiaient. En lisant Sennett, on peut conclure au contraire que cette croissance très forte conduit à un appauvrissement des villes, parce qu'on plaque une vision de l'urbanisme, une forme, et qu'on ne laisse pas le temps aux populations d'habiter les lieux, de se les approprier et de faire émerger justement cette richesse et cette complexité. Et pour le traduire en termes urbanistiques, Sennett oppose le projet et le plan, et c'est peut-être là aussi l'un des nœuds problématiques importants. Le projet, c'est le petit îlot qu'on va construire par un cabinet d'architecte en faisant comme ci, comme ça, etc. Le plan, c'est essayer d'inscrire l'urbanisme à une échelle un peu plus large pour voir comment justement, on coordonne de nouveaux projets avec l'existant pour essayer de le mailler, de le tisser au mieux.
Et le corollaire de ça, c'est qu'il faut, explique-t-il, bâtir des lieux synchrones davantage que ce qu'il appelle des lieux séquentiels. Alors pour prendre un exemple, un lieu séquentiel, c'est le stade où on ne va que pour un concert, un match de foot, alors que le lieu synchrone, c'est le bazar où il y a des activités commerciales, des activités ludiques, éventuellement des représentations théâtrales. Mais il dit bien qu'au fond, construire un lieu séquentiel comme un stade, on sait tout à fait faire, même sur un plan, alors que construire un lieu synchrone, non seulement comme si la définition c'est que s'y mêlent plein d'activités en même temps, c'est plus difficile de les coordonner, et en plus, on décide pas vraiment de l'usage synchrone d'un lieu. Donc c'est ça, il est toujours sur cette tension où il dit qu'il faut créer les conditions de la complexité, mais elles sont difficiles à planifier.
Oui, évidemment, puisque en fait, il y a une figure qui est importante dans ce livre de Richard Sennett et qui déclenche l'envie de l'écrire, c'est Jane Jacobs, avec qui il discute beaucoup, qui est une urbaniste américaine qui est partie s'installer au Canada. Voilà, il raconte l'histoire, puisque c'est quelqu'un qui pense les formes urbaines comme devant émerger doucement, de manière incrémentale, et non pas suivre un plan préétabli. C'est l'usage et l'expérience, en quelque sorte, qui font émerger les formes urbaines. Et donc, évidemment, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu sur quoi on bute hein, depuis le début de cette conversation, sur quoi bute Richard Sennett tout au long de son livre. C'est qu'une fois qu'on a dit ça, bah, comment penser, finalement, comment avoir une pensée urbaine, comment avoir une pensée d'urbaniste, puisque si on peut pas diriger, si on peut pas organiser, si on peut pas théoriser, en tout cas, si toutes les théories échouent face à l'expérience, eh ben, on est bien embêté. C'est là-dessus que Richard Sennett essaye dans sa dernière partie notamment d'apporter des éléments, Thibaut Sardier.
Oui, avec une réponse alors qui pour le coup n'est pas franchement neuve effectivement, qui est la façon dont l'urbaniste doit travailler, puisqu'il a quelques pages assez intéressantes sur la façon dont ici ou là, au Liban par exemple, il a travaillé avec des groupes d'habitants pour essayer de leur permettre aussi d'intervenir dans la conception de certains projets. Donc il fait des maquettes en polystyrène, il a des transparents superposables pour montrer différentes couches d'équipements et voir comment elles pourraient s'articuler. Et puis il dit, il faut coordonner. Et puis à un moment donné, l'urbaniste s'en va, quitte la pièce et laisse aussi les habitants s'emparer des choses. Là encore, il y a beaucoup d'urbanistes qui le font. Les projets des grands bétonneurs sont encore loin de ces choses-là. Donc c'est peut-être là encore, par rapport aux urbanistes et à cette architecture un peu standardisée, que ce message, sans être original, a vraiment du sens. Et là où on bute encore sur un élément, c'est vrai, c'est que quand on arrive à la conclusion et à son lieu d'urbanité un peu idéal, on se retrouve à Berlin-Ouest, dans la Kantstrasse, qui est une grande artère, qui est finalement assez classique, faite de commerce, d'habitation, et on se dit, bon... Tout ça, toutes ces expériences, il est allé à Delhi, dans l'informel, il nous a montré la façon dont l'urbanisme très construit pouvait cohabiter avec justement des appropriations pas très légales mais qui avaient du sens. Pour se retrouver dans cette ville-là très européenne et très classique, c'est vrai qu'on est un tout petit peu déçu que ça chute sur un quartier comme celui-là.
Oui, il note quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les consultations, il faut de la co-construction, hein, c'est ça sa thèse. Et vous parliez donc de Jane Jacobs, avec qui il est en dialogue, il faut remettre... En perspective cette figure c'est une urbaniste, une penseuse de l'architecture de la ville qui s'est fait connaître en s'opposant à Robert Moses qui voulait en gros transformer la 5e avenue en autoroute
urbaine qui traverse
de Washington Square jusqu'à Central Park. Et elle a gagné, enfin elle a réussi à mobiliser, mais il restitue, et ça un débat qui est plus intéressant je trouve, Richard Sennett, celui avec Lewis Mumford, qui dit l'insistance de Jacob sur la lenteur et les processus modestes, elle est très bien, mais ça suffit pas à lutter justement contre les grands promoteurs, contre les entreprises du bâtiment. Et donc on est vraiment encore dans cette tension qui était déjà finalement opératoire dans les années 60, 70, 80, où est-ce qu'on peut se situer pour orienter sans imposer, en permettant la multiplicité des usages. Et il a pour le coup quelques bons exemples. Alors il a des termes, la membrane, la planification semi, la coquille, la forme coquille. Mais en fait, les exemples sont à chaque fois intéressants. C'est un peu abstrait comme ça, mais je prends un exemple. Il va, c'est au Chili, où un architecte, plutôt que de faire comme on fait d'habitude pour les pauvres, c'est-à-dire la mauvaise construction finie, propose une construction avec des bons matériaux pour le même prix, mais où ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on a les murs, mais ce sont les gens eux-mêmes qui vont finir leur bâtiment. Et du coup, on n'a pas l'uniformité.
Mais sur une base
solide, dont on sait qu'elle est saine, avec des bons systèmes d'évacuation d'eau, avec des bons matériaux. Et ensuite, chacun va mettre une porte différente, une fenêtre différente, et ça va éviter l'uniformité et la mauvaise qualité souvent des quartiers pauvres.
Juste un mot pour terminer, Thibaut Sardier, Joseph Confavreux, puisque on a dit qu'on allait reparler des Smart City, qui sont un peu à la conclusion aussi du livre de Richard Sennett, qui est une analogie, si on peut parler d'analogie, puisqu'il s'agit de numérique, assez intéressante avec les villes. C'est comment les réseaux, le réseau comme Internet, s'est peu à peu refermé, qui avait des promesses d'ouverture, justement, de open source, s'est peu à peu refermé sur lui-même. Et donc Richard Sennett fait une analogie avec la ville et la Smart City, ce qui pouvait avoir des promesses d'ouverture, de permettre aux citoyens, aux citadins de s'approprier la ville par les trajets. C'est un sujet que vous connaissez bien, Thibaut Sardier, et comment elle s'est refermée peu à peu sur elle-même.
Oui, et pour ça, il retourne chez Tocqueville, paradoxalement, de façon parfois peut-être un tout petit peu plaquée, mais pour signifier que les notions, enfin la façon dont Tocqueville conceptualise l'individualisme est une bonne façon de comprendre le repli que traduit l'usage du numérique dans la ville, puisque donc en relisant Tocqueville, Il explique « Seule la familiarité du citadin avec l'environnement compte ». Et donc, qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit un peu cette ville standard dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'on ne se sent à l'aise que dans des espaces que l'on connaît, dont on connaît les codes, et donc on va aller chez Starbucks plutôt que dans le café du coin. C'est une image qu'il reprend à plusieurs reprises. Or, la ville que lui appelle de ses voeux, c'est au contraire une ville où il y a des résistances, où on n'est jamais complètement à l'aise, et qui est la ville du coup la plus intéressante, où on va se questionner sur son positionnement, sa perception vis-à-vis des altérités que l'on trouve dans l'espace urbain. Et c'est pourquoi une autre figure importante qu'on a évoquée tout à l'heure doit être soulignée, c'est celle du migrant, de l'étranger dans la ville, qui un peu pour les mêmes raisons, des expériences venues d'ailleurs, d'autres terrains, d'autres territoires, d'autres expériences vécues, permet aussi d'enrichir la ville auprès de ceux qui y vivent au quotidien.
Un mot de conclusion, Joseph Confavreux.
Et c'est pour ça qu'il faut, puisque de toute façon on va vers les smart cities, non pas choisir les deux exemples qu'ils donnent, c'est-à-dire Songdo en Corée du Sud ou Masdar près d'Abu Dhabi, qui sont en fait des villes qui cherchent à contrôler les déplacements de population, mais vers des villes intelligentes, comme il en existe certaines en Amérique du Sud et notamment au Brésil, qui cherchent à simplement coordonner via le big data pour améliorer la situation de ces derniers.
Coordonner plutôt que contrôler, ce sera donc la conclusion sur ce livre de Richard Sennett, Bâtir et habiter pour une éthique de la ville, c'est publié chez Albin Michel.
France Culture, avis critique,
Raphaël Bourgois.
Le dernier titre d'Isia sur l'album éponyme qui vient de sortir. Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous pencher maintenant sur le livre de Benoît Coquart, « Ceux qui restent, faire sa vie dans la campagne en déclin », publié aux éditions La Découverte dans la collection L'Envers des Faits. Ce jeune sociologue à l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA, chargé de recherche au Centre d'Économie et Sociologie Appliquée à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux à Dijon, étudie depuis plusieurs années les milieux ruraux et les classes populaires. Il s'intéresse ici à ces jeunes adultes qui vivent dans ce que Christophe Guilluy a appelé la France périphérique. L'expression a fait débat dans la communauté scientifique. Son côté un peu fourre-tout et indiscriminé a irrité notamment les géographes travaillant sur ces espaces. Seulement, le terme est passé dans le langage courant, celui des médias qui ont pris l'habitude de désigner ainsi les espaces désertés progressivement par les services publics où les cafés ferment et les voitures sont devenues un symbole politique. Par-delà les controverses sur lesquelles il nous faudra revenir, cet essai fait le pari de discerner des dynamiques communes aux diverses zones rurales, dynamiques qui se sont concrétisées dans le mouvement des Gilets jaunes dont il est un peu question ici, même s'il est survenu après l'enquête. Car c'est bien d'une enquête, une enquête en immersion que nous propose le sociologue dans la région du Grand Est, cette région dont il est originaire. Il s'agit d'expliquer, selon lui, le violent triage d'une génération en mettant la focale sur les manières de se fréquenter, de se lier d'amitié ou de fonder un couple, mais aussi de vivre dans un sentiment de conflit permanent tout en cherchant à être reconnu par ses semblables. La division d'une génération entre ceux qui partent, c'est-à-dire souvent ceux qui ont fait des études, et ceux qui restent, fonde l'analyse d'un entre-soi populaire basé sur une communauté d'idées, des solidarités et la définition d'un « nous ». Thibaut Sardier, c'est un essai qui apporte une pierre supplémentaire à l'un des débats intellectuels les plus vifs de ces dernières années, un débat politique aussi. Comment définir la France éloignée des centres urbains et ceux qui l'habitent? J'ai un peu improprement parlé de zone périurbaine tout à l'heure, je vous ai vu tiquer.
Oui, absolument. Effectivement, l'un des enjeux de ce livre, c'est de bien comprendre de quel espace rural on parle, puisque lui, dans le sous-titre, dit « Ce qui reste, faire sa vie dans des campagnes en déclin ». Et d'abord, tous les espaces ruraux français ne sont pas en déclin. Il y a des typologies statistiques qui opposent, pour faire simple, les campagnes des villes du littoral et des vallées urbanisées, qui sont celles qui, à cause de l'économie touristique, résidentielle, ou tout simplement de l'influence des grandes métropoles, fonctionne relativement bien, ont une économie relativement dynamique, une agriculture qui se réinvente au service des villes, et où le terme de crise n'est pas vraiment approprié. Benoît Coquart, lui, s'intéresse aux autres, des campagnes vieillies à très faible densité, disent les statisticiens, ou encore les campagnes agricoles et industrielles qui sont sous faible influence urbaine. Et c'est finalement là tout le problème. Ces espaces ruraux du Grand Est dont il parle dans le livre avaient auparavant un tissu économique surtout marqué par l'industrie et un emploi industriel majoritairement peu qualifié. Ces usines ont fermé. Il n'y a pas de ville à proximité directe pour fournir des emplois à la population qui réside. Donc, comment faire? Comment vivent les gens, et notamment les jeunes, puisqu'ils s'intéressent surtout aux vingtenaires et aux trentenaires, qui s'y trouvent encore? Comment expliquer qu'ils y restent? Et c'est là tout l'intérêt de cette enquête. Il explique d'abord qu'il y a un fort attachement à ces territoires. Souvent, on a hérité de la maison, on y conserve des liens familiaux qui sont précieux, parce que lorsqu'on n'a pas pu accéder aux études supérieures ou pas voulu, ces liens de socialité sont très importants, et il les étudie dans le détail. Sa principale conclusion, c'est que avec la fermeture des usines, les sociabilités liées au travail, alors les lieux de travail en tant que tels, mais aussi les clubs, les lieux festifs qui étaient liés simplement au fait que ces territoires produisaient de l'argent disparaissent, et donc ne restent sur ces territoires que ceux qui n'ont pas les moyens, le niveau d'études nécessaire pour aller chercher du travail ailleurs.
Oui, c'est un livre qui fournit véritablement des éléments, des informations pour discuter dans le cadre d'un débat qui a eu lieu notamment autour des Gilets jaunes, à savoir ces personnes qui se plaignent de devoir, en tout cas d'être si dépendants de la voiture et donc de subir par exemple une taxe carbone de manière plus forte que d'autres habitants de la France. Est-ce qu'ils ont choisi de rester dans ces espaces en déshérence, et quelle est la nature de ce choix, ou est-ce que c'est une contrainte? Et on a beaucoup entendu ce débat ces derniers mois,
Oui, je pense que c'est vraiment un livre nécessaire, qui vient au bon moment. Alors, c'est toujours compliqué parce qu'il lit vraiment le spatial et le social. Là, les auditeurs s'en sont pas rendus compte, mais Thibaut Sardier vient de réussir à résumer une carte hyper compliquée en quelques phrases à l'oral. Il faut l'en louer. Et notamment, cette question de la voiture, qui est centrale. C'est là où c'est un livre assez impressionnant, parce qu'en fait, c'est un livre sur les Gilets jaunes avant les Gilets jaunes. Et que donc, on comprend mieux pourquoi ce sont les ronds-points, puisqu'il n'y a plus de lieu de sociabilité, on se retrouve sur les ronds-points, et la nécessité d'appartenir à un collectif, alors là, un collectif en l'occurrence pour les Gilets jaunes, de mobilisation, mais en fait il décrit plein de nouveaux collectifs qui ne sont plus fondés sur les anciennes manières de faire, c'est-à-dire les sociabilités au travail ou depuis le travail, ou les sociabilités de localisation parce qu'on habitait le même village.
Ou d'engagement, politique, ou d'engagement, syndicaux, ouais.
Que tout ça, ça s'est effondré, mais que se sont reconstitués d'autres types de sociabilité nécessaires aussi parce qu'il faut se protéger ou simplement s'entraider dans un monde où la concurrence est forte puisque l'emploi est très faible. Et c'est là où, en fait, il est quand même dans les bases de la sociologie, hein. Il fait de l'immersion, de l'observation participante, mais c'est vraiment nécessaire parce que ça fait émerger des problématiques qui sont assez peu visibles, non seulement pour les journalistes qui se baladeraient juste dans un centre-bourg avec des cafés fermés, mais même pour des gens qui simplement vont venir leur poser des questions. Mais alors, vous pensez quoi de l'immigration, tout ça. Il montre bien que, en fait, c'est que parce que lui-même, hein, il faut bien le dire, est issu de cette jeunesse. Alors lui, il fait partie de ceux qui sont partis, mais qui a gardé des liens, que dans l'homogénéité, dans le clan, dans le groupe d'amis auquel lui il a accès, alors qu'un observateur passage, mais même qui fait un travail non pas de simplement d'arriver comme ça 10 minutes avec sa caméra, n'aurait pas accès. Et il décrit quand même, parce qu'il faut bien le dire, un paysage dévasté. C'est-à-dire qu'il dit il y a un exode rural comparable à ce qu'on a appelé l'exode rural de l'après-guerre, une consommation d'héroïne complètement délirante, alors que souvent c'est quand même attribué aux zones urbaines, une déréliction au-delà de ça des services de santé, un délabrement des centres-bourgs, qui recrée à la fois des solidarités et des conflits.
Oui, pour dire un dernier mot de ce projet, hein, de Benoît Coquart dans Ce qui reste, il reprend cette notion à Pierre Bourdieu de classe objet, c'est-à-dire une classe qui est parlée au lieu, voilà, qui est agie, qui est parlée plutôt qu'on ne la laisse parler, et qui sur laquelle on peut porter depuis Paris ou même depuis des centres, d'autres types de centres de centre-ville, un regard un peu exotique. Et lui, son travail lui a permis de dégager en effet des points importants qui échappent en règle générale au regard. La question de la réputation, par exemple, d'avoir la bonne réputation, qui est absolument centrale et qui traverse tout le livre. L'importance de la bande de potes, entre guillemets, mais qui va beaucoup plus loin, hein, que des sociabilités, voilà, que d'aller boire un verre ensemble, puisque c'est des lieux de solidarité, on s'entraide, on construit la maison ensemble, on trouve là, évidemment, des espaces pour s'aider, et donc un style de vie populaire, hein, basé sur l'interconnaissance, l'autonomie, la camaraderie, l'hédonisme, et surtout sur la volonté, pour se protéger, d'être toujours entouré de gens qui pensent comme soi. Et ça, c'est aussi un point très très important. Il est dans la région du Grand Est, qui est traditionnellement une région de droite, et qui glisse, qui a voté à plus de 50% pour Marine Le Pen aux dernières élections, qu'elles soient présidentielles ou autres. Et donc, il montre, voilà, que se dire 100% Le Pen, c'est aussi affirmer une forme, Thibaut Sardier, de reconnaissance, de distinction presque, pour reprendre encore un terme bourdieusien.
Ouais, et de l'affirmer aussi, de revendiquer une forme de fierté d'existence. Et c'est ça qui est intéressant, parce que effectivement, il ne nie en aucune façon, et il décrypte même les mécaniques de la crise que Joseph Confavreux vient d'expliquer, tout en relativisant d'une certaine façon la crise, puisqu'il montre aussi la puissance de ces liens de socialité, de sociabilité qu'on peut négliger si effectivement on se balade et qu'on voit les cafés et les usines fermées, tout simplement parce que les lieux de cette sociabilité ont changé, et il montre bien qu'il y a un repli sur l'espace privé. Désormais, on fait venir les potes, les amis chez soi, dans son salon, pour éviter les ragots, parce que traîner dans la rue et marcher à pied dans le village, ça ne se fait pas, c'est mal vu, c'est réservé aux cas sociaux, pour reprendre un mot qu'il utilise, qu'il utilise beaucoup, voilà, les cas sociaux. Et à cela est liée une analyse de l'organisation, de la structuration sociale qui est assez fine, puisqu'il montre que donc il y a toute cette logique de clan. Pour avoir une existence, espérer trouver un travail, il faut appartenir à un clan, à un réseau d'amis chez lequel on va aller boire l'apéro régulièrement, enfiler les bouteilles de pastis et montrer que on est capable d'enchaîner les coups et que ça fait partie de ces rites de sociabilité. Cette appartenance au clan, elle permet donc d'abord de se distinguer des plus précarisés, les fameux cas sociaux dont je parlais à l'instant. Donc ça, c'est la première dichotomie sociale qu'il met en évidence. Mais ensuite, à l'intérieur du clan, il montre une espèce d'ambiguïté, car on se retrouve entre semblables. Il faut être à peu près d'accord politiquement, avoir des valeurs en commun, être capable de se soutenir. Et en même temps, on ne peut pas être tout à fait similaire, identique, sans quoi on se retrouve en situation de concurrence dans un marché de l'emploi qui est extrêmement serré. Donc si on est deux ouvriers peu qualifiés dans le bâtiment, qu'on est dans le même groupe d'amis, on risque de concourir pour les mêmes postes. Et si l'un là et pas l'autre, le clan dans ces cas-là se rompt. Donc il y a de petites différences sociales. Souvent, on est dans un même clan avec un chef d'entreprise et puis des gens moins qualifiés que soi, etc. etc.
Au passage, Joseph Confavreux, ça aura peut-être sauté aux oreilles des auditeurs dans ce que vient de dire Thibaut Sardier. On est là dans une approche très masculine, finalement, de la question de la réputation, de la question de la bande de potes. C'est aussi un point important que j'ai pas encore évoqué du livre de Benoît Coquart, c'est de faire cette distinction entre ce que c'est que d'être un homme ou ce que c'est que d'être une femme dans ces espaces, avec des femmes qui investissent plus l'éducation, qui investissent plus l'école et donc qui partent plus, et celles qui restent sont soumises différemment à cette question de la bonne réputation, sont soumises différemment à la problématique du travail, puisqu'elles sont beaucoup plus précarisées encore que les hommes qui sont déjà très précarisés sur le marché du travail.
Oui, c'est il a vraiment une approche à la fois très fine en termes de classe sociale, en montrant qu'il y a des effets comme ils appellent d'affinité transclasse, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un petit patron, avec un artisan, et aussi en termes de genre, d'une part parce que c'est d'abord les femmes qui sont parties, le déclin démographique, il est parce que les jeunes partent, mais notamment parce que les jeunes femmes partent, parce que les femmes, on le sait, investissent davantage le jeu de l'école, comme ils l'appellent, et donc ont davantage le bac, et donc finissent par partir en ville de manière plus massive, et on voit, alors... On est dans la micro-sociologie. Hein. On est sur, il y a des chapitres quasiment entiers sur un couple ou un personnage, et on voit à quel point une des difficultés des jeunes garçons populaires, c'est simplement de trouver, comme il y en a un qui dit, quelqu'un qui soit ni collé déjà avec deux gosses, ni l'ex d'un pote, parce qu'on est quand même sur des cercles assez limités. Et ça, je pense qu'effectivement, et il montre bien aussi, ça c'est vraiment très intéressant, comment la nostalgie, parce qu'il y a quand même vraiment la présence du passé, d'un passé mythifié, le bal où à l'époque il y avait plein de gens, mais c'est vrai, hein, il y avait 200 personnes alors que maintenant les bals fonctionnent plus du tout quasiment.
Oui, il y en avait un tous les 15 jours,
il y en a 4 par an. Et comment cette nostalgie, elle est très genrée aussi, elle est plus chez les garçons parce que les hommes partagent au fond des activités avec les pères, la chasse, le football, le motocross, davantage que les femmes. Donc vraiment, moi je trouve que la manière dont il articule la micro-sociologie et les grands cadres qu'on a en termes spatiaux ou de classe habituelle est vraiment assez bien faite.
Et surtout la manière dont il porte un regard véritablement sociologique, c'est-à-dire il prend au sérieux ces idées, voilà, qu'on entend, hein, qu'il pourrait faire un petit peu café du commerce, c'était mieux avant, la bagnole c'est central, la chasse c'est important parce que c'est un lieu de sociabilité. Bah lui il va déconstruire, en tout cas il va analyser ces différentes propositions en sociologue et montrer qu'est-ce que ça nous dit de ces populations, de leurs attentes, de leur façon de vivre, de leur façon de sociabiliser. Thibaut Sardier.
Et on en revient à cette notion centrale de réputation, qui est que aussi cet aspect générationnel, il permet aux jeunes gens de faire valoir des histoires de leurs parents, de leurs grands-parents, avec un nom de famille qui est rattaché à des histoires justement de sorties dans les bals, et que si on appartient à la famille qui a vécu les aventures les plus extravagantes, on bénéficie aussi de cette aura qui aide notamment les jeunes hommes à affirmer une position sociale. Et donc d'où aussi toute l'importance des clubs. Vous avez dit la chasse, il y a aussi le club de foot qui, lorsqu'ils survivent, permettent aussi de s'affirmer, de faire vivre ces clans et de mettre en avant des familles, des jeunes gens plus que d'autres. Maintenant, si on pointe aussi quelques limites peut-être de l'enquête, c'est ce qu'on vient de dire à propos de la question du genre, le fait que son analyse, parce que lui-même est un observateur masculin, donc il a plus facilement accès à ses réseaux masculins, fait que les femmes sont du coup un peu absentes et toujours placées dans l'analyse, dans la dépendance de socialité masculine. Alors certes, elles apparaissent visiblement comme dominantes, et elles le sont sans doute, mais on aurait aimé peut-être aller au supermarché, rester plus longtemps
avec des femmes qui boivent des coups, parce que ça existe.
Voilà, il le dit d'ailleurs, mais on aurait aimé rester plus longtemps aux côtés de ces femmes. Il est question aussi des réseaux sociaux, de messages qui circulent sur Facebook et qui ont une influence sur la réputation des unes ou des autres. Pareil, ce travail d'analyse de ce que les réseaux sociaux peuvent transmettre sont moins fortes. Et enfin, il parle beaucoup des réseaux amicaux et peut-être moins des liens familiaux qui semblent, pourtant il l'évoque à plusieurs reprises et encore une fois notamment chez les femmes, être un élément de sociabilité et de solidarité très très important. Donc alors il ne cesse de préciser son statut d'homme issu de ce territoire. Donc on comprend très bien l'enjeu et les limites de sa position, il les assume, mais c'est vrai que des fois on reste un petit peu sur sa faim, alors qu'inversement il revient régulièrement sur le fonctionnement de ces groupes masculins.
Joseph Coufavreux.
On a dit à quel point effectivement c'est précis, mais que du fait de cette position très située, sans doute que certains champs lui échappent. Mais voilà, pour en venir peut-être au point sur lequel le livre nous intéresse particulièrement, c'est que c'est vrai qu'au moment où l'essayiste Christophe Guillouis a lancé ce thème de la France périphérique, ça a fait bondir plein de chercheurs, en partie par jalousie, parce que voilà, il captait tout, et que une des réponses a été simplement de dire non, mais regardez, en fait, dans le Bas-Rhin, ça se passe pas exactement comme ça, et qu'il y avait un peu une limite à simplement documenter des spécificités locales face à un concept qui était effectivement trop amalgamant, mais qui était quand même assez fort. Et là, je trouve que Benoît Coquart, il va plus loin parce qu'il essaye de regénéraliser à partir de ça en se demandant, au fond, ces solidarités à la fois réelles mais restreintes qui sont issues de la perte des grandes solidarités historiques, est-ce qu'elles sont captées ou pas par le Rassemblement National, par une parole d'extrême droite? On se dit que logiquement, un truc qui est, on se protège, peut être facilement opérable dans les cadres de la pensée d'extrême droite, le sont les Français d'abord. Et c'est là où moi je trouve que vraiment son analyse percute un peu quand même les cadres avec lesquels on pense d'habitude l'opposition des petits blancs aux autres, mais que ce soit d'ailleurs dans une vision de droite ou de gauche qui fantasme un peu les beaufs racistes, quoi. C'est-à-dire que là il vient montrer que dans ces clans où tout le monde peut afficher un vote Le Pen, en tout cas dans le discours, ne serait-ce parce que la gauche, et ça, elle a quand même du boulot elle est totalement associée à la fainéantise et à la cistana, en fait, il y a des enfants, non seulement de Portugais, d'Espagnols, mais de Maghrébins, qui partagent les conditions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de friction, mais moi, je trouve que là, ce qui fait voler en éclats, c'est le concept, non seulement de petit blanc, mais d'insécurité culturelle, en montrant que c'est toujours sur des raisons économiques vitales que se font à la fois les rapprochements et les divergences plutôt que sur les questions culturelles.
Oui, comme ça, Joseph Coffavreux, vous avez aussi évoqué l'autre protagoniste de ce type de débat qui est Laurent Bouvet, qui a pensé cette idée d'insécurité culturelle. Juste un dernier mot, en effet, Thibaut Sardier, sur cette question du rapport au vote Rassemblement National. C'est vrai qu'il y a quand même, dans ce que montre Benoît Coquart, une unité qui est celle de la crainte, on pourrait presque dire de la peur, c'est-à-dire la peur du déclin. Classement, même puisqu'on se retrouve, ceux qui l'analysent, les personnes qui l'analysent, retrouvent des hiérarchies, reconstruisent des hiérarchies, des réputations qui leur permettent de ne pas avoir le sentiment d'être tout à fait déclassé. Donc la peur du déclassement, la peur de la réputation, je l'ai dit, la peur du chômage, de passer pour un assisté, un cas social, pareil, c'est des termes qui reviennent beaucoup et donc qui sont rassemblés dans cette idée que la solidarité ne pourrait s'exprimer que dans un cercle restreint, et donc la solidarité nationale échappe même à leur capacité, à la capacité des gens qui vivent dans ces campagnes en déclin, et ça se retrouve dans une expression « déjà nous ». Voilà, on fait ça, mais déjà commençons par nous, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et d'où aussi ce qu'explique Benoît Coquart sur le succès probable du vote FN, qui est que les deux discours coïncident. Le discours de la préférence nationale porté par le FN utilise les mêmes mots que celui de ces communautés des campagnes en déclin. À ceci près, effectivement, que le « nous » n'est pas le même, puisque là, il est vraiment à l'échelle de ces quelques individus ou dizaines d'individus qui font le choix de privilégier des liens d'entraide entre eux, parce qu'ils y voient effectivement le seul moyen d'assurer un minimum de survie par les services qu'on peut se rendre les uns les autres. Et ça explique aussi le fait qu'ils se soient investis dans le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est le risque du surcoût de carburant, c'est le billet de trop, pour reprendre une citation d'une des personnes qui l'a enquêté, le fait qu'à un moment donné, il faut manifester le ras-le-bol, et que quand on sent sur les ronds-points une forme d'adhésion des automobilistes journaliste à la cause qui est défendue, on se rend compte que le problème est un peu plus général, que par conséquent sa propre réputation n'est pas mise en danger par le regard que pourraient avoir les voisins ou les habitants du territoire, et qu'on peut donc se sentir légitime à franchir le pas pour faire valoir effectivement une parole différente, on peut dire pourquoi pas périphérique, si ce n'est que, et je termine là-dessus, le concept de France périphérique finalement n'est pas particulièrement non plus légitimé, parce que là il s'intéresse à cet espace rural particulier en déclin, alors que le concept de France périphérique se prétend plus englobant et incluant par exemple des espaces beaucoup plus proches des villes, certaines banlieues ou certains espaces périurbains qui seraient eux aussi en crise. Ce n'est pas de ces espaces-là qu'il est question dans l'essai de Benoît Coquart.
Il y a une petite explication qu'on aura dans le livre de Benoît Coquart, c'est pourquoi est-ce que dans le Grand Est, il y a des fois des voitures avec des plaques d'immatriculation corse. En fait, c'est parce que pour certains de ces habitants du Grand Est, comme ça, on se fait moins emmerder si on a une plaque d'immatriculation corse. Et comme dit l'un des enquêtés, ici, c'est la Corse sans la mer.
Voilà, Benoît Coquart. Ceux qui restent faire sa vie dans les campagnes en déclin, c'est donc aux éditions La Découverte dans la collection L'Envers des Faits.
L'instant critique.
L'instant critique, ce sont les derniers moments de l'émission, ceux où nos critiques proposent des objets qui sont plus proches des objets culturels, littérature ou autres. Et je vois, Thibaut Sardier, que vous avez l'excellent premier roman de Marin Fouquet, 77, qui se passe, si j'ai une bonne mémoire, dans un abrébus.
Exactement, je crois qu'il faut dire 77, comme le nom du département, la Seine-et-Marne.
Oui.
C'est pour un petit peu pour rester dans le thème de ceux qui restent. Alors là, on est assez proche de Paris, en tout cas on est en région Île-de-France, mais dans un territoire rural, mais on a un petit peu le même itinéraire d'un jeune homme bloqué dans son arrêt de bus, la capuche de suite sur la tête et qui regarde passer les voitures en regardant à chaque fois leur couleur pour reprendre un jeu qu'il avait quand il était enfant, et il retrace dans un espèce de flux de conscience les souvenirs du passé qu'il reconstitue progressivement et qui permettent de donner un peu aussi une lecture sociale, sociologique derrière évidemment les qualités littéraires et les enjeux littéraires sur lesquels je ne développerai pas, mais ce territoire où on s'attend à ce que Paris déverse son béton et ses habitants sur ce petit territoire rural qui essaie de survivre. En fait, évidemment, cette menace ne se réalise jamais, et on est dans un territoire principalement de l'attente. On ne sait pas ce qu'ils étudient, ce qu'ils comptent faire, quelles sont leurs ambitions. Il y a une espèce comme ça de pesanteur qui, voilà, me semble éclairer de façon assez intéressante ce que dit Benoît Coquart à propos du Barin. Et donc ça s'appelle 77 de Marin Fouquet chez Actes Sud, et c'est sorti à la rentrée.
Merci Thibaut Sardier, c'est un premier roman, il faut le dire. Joseph Confavreux, vous aussi vous êtes venu avec un livre aux éditions Verticales.
Oui, mais alors moi c'est quelqu'un qui est parti, hein, pas ceux qui restent, puisque c'est le livre intitulé Croire aux fauves, qui est signé d'une anthropologue, Nastasia Martin, qui avait fait un très beau livre intitulé Les âmes sauvages. C'était en 2016 à La Découverte, où elle étudiait des populations en Alaska. Et là, c'est son premier récit, qui est saisissant à la fois par son écriture et par ce qu'il raconte, puisque c'est le récit de sa rencontre au Kamchatka avec un ours. Est-ce que cette rencontre a produit, à la fois physiquement, hein, puisqu'elle a été défigurée, mais aussi anthropologiquement, puisqu'elle acquiert, du fait de ce corps à corps, dont elle est une des très rares à avoir survécu, un statut particulier, une toute autre vision du monde, puisque, pour la citer, ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas « un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamchatka », l'événement est « un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent ». Et voilà, et c'est ça qu'elle décrit tout le long. C'est vraiment un récit saisissant. Et il est particulièrement intéressant de le comparer, puisqu'en fait, elle avait fait, déjà dans la revue Terrain, un récit, mais alors beaucoup plus scientifique, anthropologique, de cette rencontre. Là, on n'est pas du tout dans quelque chose de romancé, mais on voit comment, 3 ans après, peut-être une fois qu'elle s'est un peu reconstruite, elle re-raconte cette histoire. C'est publié aux éditions Verticales et ça coûte 12,50 €.
Nastasia Martin, Croire aux fauves. C'est vrai qu'on donne rarement les prix des livres. Je sais pas si vous voulez donner celui de 7-7.
19 €.
19 €. Donc voilà, vous verrez quelle est la profondeur de vos bourses. Merci beaucoup à tous les deux. Avis critique, c'est donc terminé. Attaché d'émission, Catherine Donnet. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vanessa Nadjar. Et à la prise de son, Antoine Espel. Cette émission, vous pouvez la télécharger et la réécouter sur franceculture.fr. Allez sur la page d'avis critique où vous trouverez aussi la possibilité de vous abonner au podcast et donc de recevoir chaque semaine automatiquement le dernier numéro d'avis critique, la dernière émission d'avis critique sur votre application de podcast. Allez-y, c'est très important, c'est de salubrité publique. Dans quelques instants, Jukebox.